Elle fait 1 million de victimes chaque jour dans le monde. Elle, c'est la cybercriminalité. C'est un chiffre éloquent et pourtant on a l'impression qu'elle est encore assez peu connue. On estime ses coûts à plus de 350 milliards de francs. Individus, entreprises, États, tous sont concernés, tous sont des cibles potentielles. Pour y faire face, une action concertée est nécessaire et c'est bien l'objectif du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité qui sera inauguré officiellement ce mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, à La Haye, sous l'égide d'Europol. Tout cela sera-t-il efficace? On en parle avec vous, Solange Guernaouti. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à HEC à l'Université de Lausanne. Vous êtes spécialiste de cybercriminalité. On peut rappeler votre ouvrage en 2009, paru dans la collection Le Savoir Suisse. Cybercriminalité, ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors on va essayer de décrypter tout ça un peu avec vous. D'abord, l'ouverture, l'inauguration après-demain, mercredi à La Haye, de ce centre sous l'égide d'Europol. Ça veut dire qu'on a pris la mesure des défis que pose la cybercriminalité, c'est vraiment un tournant là?
Alors effectivement, il faut noter que l'Europe est pionnière dans ce domaine puisque déjà en 2001, il y a eu la Convention européenne de lutte contre la cybercriminalité qui mettait en avant la nécessité de pouvoir collaborer 24 heures sur 24 d'une façon internationale et de mettre en place des équipes qui permettent d'échanger les informations pour réagir vite en cas de problème. Et là, effectivement, c'est une première bien avant Interpol qui va ouvrir son même centre à Singapour en 2014.
Et il ne va pas y avoir doublon là?
Non, pas du tout, parce que je crois que le travail est sans fin et immense et la tâche est immense. Tout à l'heure, vous évoquiez les chiffres importants et c'est qu'une estimation qui est sans doute très, très en dessous de la réalité puisqu'à peine 10% des cybercrimes sont reportés aux instances de justice et police.
Oui, c'est une criminalité par essence qui est très virtuelle, donc peu palpable.
Je dirais pas virtuelle parce qu'elle est bien réelle. Il faut faire attention un petit peu avec ce mot qui peut donner quelques confusions. Les impacts sont réels. Ce qui paraît difficile à contrôler ou à identifier, c'est l'espionnage industriel par exemple, le vol de données puisque les données existent toujours, puisqu'on les copie uniquement et parfois les entreprises où les individus ont du mal à penser qu'ils ont été victimes de la cybercriminalité, ou ont parfois très peu de confiance dans les instances de justice et police pour faire réparation.
La plupart du temps, on ne s'aperçoit pas qu'on a été piraté.
Ça peut être le cas, oui.
Oui, donc c'est ça le plus grave, finalement, on ne sait pas qu'on a été volé. C'est dans ce sens-là que c'est virtuel, voilà. Pardonnez-moi de réutiliser ce terme.
Mais... Oui, effectivement, c'est dans ce sens-là où ça peut poser problème dans l'identification du délit et surtout dans un temps suffisamment rapide pour pouvoir réagir encore plus rapidement.
Alors ce centre Europol, après-demain, puis vous l'avez dit, Interpol va aussi ouvrir le sien. Qu'est-ce qu'on va y faire? Surveiller toute la toile? C'est pas possible,
non,
a priori. Qu'est-ce
en fait,
qu'on peut
c'est
faire
pas, c'est pas des instances de surveillance ni de censure. Tout au contraire, c'est des instances où on permettra de mettre en place des outils d'informatique forensique pour collecter des traces, les analyser et pouvoir remonter jusqu'à l'identification des malfaisants.
Oui, mais comment est-ce qu'on les identifie? On lance à notre tour des hameçons pour qu'ils prennent?
Non, c'est pas dans cet aspect de prévention puisque la police a un rôle enfin, vraiment de réaction. C'est une fois l'infraction constatée, mettre en place les moyens qui permettent de collecter les données un peu partout dans le monde, y compris dans les serveurs où on n'a pas normalement accès quand on n'est qu'une entité nationale.
Mmh. Mais comme entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire alors?
Nous, c'est rapporter à la police et la police qui va mettre en place les procédures et appel à Interpol ou Europol si nécessaire.
Et si on ne voit pas venir le coup, comme on le disait, la plupart ou certains coups ne sont pas démasqués.
Ça veut dire qu'effectivement, en parallèle, il faut pour que la police soit efficace, il faut mettre en place dans les entreprises des moyens d'identification des délits ou de surveillance, effectivement, des incidents et de réaction. Avoir des procédures de réaction en cas de délits constatés. Pour les constater, eh bien, faut avoir une sécurité informatique opérationnelle.
Et les dirigeants de l'entreprise et partant aussi les politiques vous semblent être assez en avance sur ce sujet-là ou est-ce qu'ils sont encore naïfs?
Non, de plus en plus d'entreprises et de dirigeants prennent conscience de ce problème, de cette valeur d'information et de cette information qui peut être volée, détériorée, mise à mal, exploitée à mauvais escient. Donc il y a une prise de conscience qui est en train de se faire et pas uniquement en Suisse mais de par le monde. Ça va prendre encore du temps de sensibiliser toutes les structures mais surtout c'est après dégager les moyens, les ressources pour que les entreprises, y compris les plus petites, qui sont les plus vulnérables, puissent réagir.
Et les PME sont concernées aussi?
Ah ben absolument, tout le monde.
Donc chaque PME devrait avoir un garde cybercriminalité? Ça devrait se passer comment dans l'idéal?
Non, dans l'idéal, je dirais que c'est que les fournisseurs de solutions informatiques fournissent des produits moins vulnérables, puisqu'on sait que les criminels vont exploiter les vulnérabilités intrinsèques à l'informatique et aux télécommunications pour être efficaces. Donc déjà, avoir une infrastructure bien robuste, plus résiliente, ça c'est du devoir des des fournisseurs de solutions. C'est un accompagnement aussi par les fournisseurs de mise en place de mesures opérationnelles de sécurité efficaces et aussi l'adoption d'une hygiène informatique et de comportements qui ne mettent pas l'infrastructure informatique de l'entreprise à risque. Donc c'est tout un tas de petites mesures opérationnelles qui doivent être vécues au quotidien et alimentées au quotidien pour être moins en situation de danger.
Des solutions informatiques, mais j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on entend parler de ces pare-feux, de ces solutions qui protègent les pirates. Ils ont toujours une longueur d'avance, non, les pirates ?
C'est-à-dire que les pare-feux, comme vous l'avez noté, effectivement, ont fini leur temps de vie. C'est pas pour autant qu'il faut pas en mettre, mais je veux dire, c'est que des mesures techniques qui vont répondre à un problème humain, opérationnel et procédural. Donc ça a des limites. C'est un ensemble de mesures complémentaires et la sécurité, par nature, doit être interdisciplinaire et avoir des mesures procédurales importantes. Ce qui va faire la robustesse de la sécurité informatique technique, c'est le management de cette sécurité, la gestion de cette sécurité.
Y compris l'anticipation des divers comportements humains qui vont aller pirater une entreprise, un site, etc. Ça, est-ce qu'on peut le prévoir, ça ?
Oui, bien sûr. C'est modélisable, c'est prévisible et c'est aussi prévoir aussi le risque humain d'origine interne en mettant en place peut-être des conditions de travail optimales pour les employés. Et on voit que ça va être de plus en plus difficile aux employés d'être loyaux à l'entreprise quand celle-ci se comporte mal envers eux. Donc on peut s'attendre à une augmentation des risques du fait qu'il y a un malaise au travail, des gens qui sont licenciés du jour au lendemain façon vraiment pas très éthique.
Est-ce qu'il faudrait pas un peu désinformatiser le monde de l'entreprise ? Parce que finalement, tout passe par le canal informatique. Le risque d'être piraté n'est dû qu'à l'ordinateur. Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qu'il faudrait remettre, comme au bon vieux temps, ou pas, sur papier ou ailleurs ?
Ah, mais il y a plein d'entreprises, effectivement, qui mettent en place des solutions autres que technologiques pour se protéger. La meilleure façon de ne pas pas subir une cyberattaque de l'extérieur, c'est de ne pas être connecté au réseau.
Oui.
Donc on a aussi ce retour aux fondamentaux, aux valeurs humaines et à l'humanisation de cette informatique.
Donc certaines entreprises se désinformatisent en quelque sorte ?
S'informatisent autrement en tous les cas.
Oui. Alors l'informatisation autrement, on pourrait penser à ce qu'on appelle le nuage, le cloud computing.
Non, je crois que c'est encore pire, puisque là les risques on les externalise, on ne les maîtrise plus du tout.
Donc le cloud c'est pire, hein, c'est ce que vous
dites. Ah oui, je pense.
Ouais. Pourtant c'est une solution qui est prônée par
c'est une solution
pas mal
marketing,
d'acteurs.
Bien sûr. Ouais. C'est une solution qui fait vivre certains acteurs au détriment de d'autres, mais je pense que la maîtrise de la sécurité doit rester en interne de l'entreprise. Et doit pas être externalisé avec des partenaires dont on peut pas vraiment vérifier la confiance dans laquelle on peut avoir dans leur sécurité.
Est-ce qu'on sait d'où viennent les attaques majoritairement ?
Elles viennent on peut en avoir une estimation. Elles viennent du monde de la criminalité organisée, puisque c'est vraiment les nouveaux territoires qui sont explorés pour la profitabilité de ces instances criminelles. Ça vient aussi des attaques peut-être d'origine étatique pour tout ce qui est espionnage, surveillance, et c'est de la guerre économique. On est dans un contexte de concurrence extrême à l'échelle mondiale, et tous les coups sont permis, y compris ceux qui peuvent se dérouler dans le cyber. Espace.
On parle de la Chine comme étant un de ces acteurs étatiques. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'en est un parmi d'autres. Mais je crois que c'est bien d'avoir un ennemi commun et de pouvoir le montrer du doigt. Ça, c'est assez facile. Les Chinois sont des cibles idéales. Je ne dis pas qu'ils sont neutres dans l'histoire, mais beaucoup de cyberattaques qui sont identifiées, qui pourraient passer par la Chine, ne sont que des relais en Chine et ont une origine extérieure à la Chine.
Expliquez-nous ce cheminement, là, Solange Guernaouti. Alors, d'où ça part ?
Ça peut partir au hasard, disons comme ça. Imaginons des États-Unis, d'Israël, de Russie, voire de France, d'Allemagne. Donc dans certains cas, il faut vraiment être très prudent. Et c'est un des gros problèmes de la cyberguerre, c'est de pouvoir attribuer l'origine d'une attaque. On ne peut être sûr de rien, puisqu'on peut passer par des multiples relais, de multiples intermédiaires. C'est comme pour les mules dans le trafic de drogue. Mais la mule, c'est qu'un intermédiaire. Effectivement, il y a un rôle à jouer dans le processus, qu'il faut absolument combattre. Mais l'origine n'est pas dans la mule.
Et vous le dites, certains États sont clairement cybercriminels ?
Non, je dis pas que les États sont cybercriminels, mais ils vont utiliser des armes identiques à ceux qui utilisent des cybercriminels pour être efficaces dans leur recherche de performance étatique.
Justement, on a un sujet dans la presse romande avec vous, Jean-François Moulin, et Maurice Doucas est également présent à vos côtés. Les guerres de demain seront celles des drones et des moyens électroniques.
Autrement dit, une guerre sans soldats. C'est une évocation qui n'est plus tout à fait farfelue. Certes, les kalachnikovs et les machettes ont toujours de beaux jours devant elles, mais note Louis Slema ce matin dans Le Temps, la guerre de demain sera invisible. Cette guerre rêvée est évoquée par le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge. être capable de combattre sans engager un seul de ses propres soldats sur le terrain. Cela s'appelle la guerre cybernétique. Car, estime Yves Daccord, pour un pays aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus intéressant de faire la guerre de cette manière, qui rend les pertes minimes dans son propre camp et qui garantit dans le même temps un choc maximum chez l'ennemi. Non seulement cela tue, mais cela donne l'impression de pouvoir frapper en permanence. Beaucoup d'armées sont aujourd'hui conscientes qu'il est devenu très difficile de gagner une guerre par une occupation et que le risque est de rester embourbé dans un théâtre d'opération dont on ne connaît pas la logique et dans lequel on est confronté à des groupes armés devenus très agiles et très performants. Mais attention, il faut tout de même garder en tête qu'au-delà de l'accès à la technologie, la guerre à distance ne fonctionne que si l'on dispose de suffisamment de force pour rendre la symétrie impossible. On imagine mal que les États-Unis acceptent que des drones d'un autre pays survolent la ville de New York. Évidemment, cette guerre a des risques, notamment celui de ne plus distinguer un acte militaire à un acte visant à se défendre contre la criminalité informatique. Le risque, c'est qu'un même acte puisse être interprété de manière d'un côté comme de l'autre.
Bon, on est au cœur du sujet, là, Solange Garnaouti. Est-ce qu'un jour, on verra des drones autres que les drones américains survoler New York, par exemple ?
Ça, j'en sais rien, je peux pas y répondre, mais les drones surveillent, effectivement, et existent, et sont des outils de la surveillance des populations et des outils de la guerre. Ce qu'il faut voir, c'est que les drones existent grâce au GPS, et que le GPS, tout ce qui est géolocalisation, est au cœur des problématiques actuelles et de la maîtrise des territoires, qui peuvent être des territoires virtuels, comme le cyberespace. Et c'est des guerres d'influence, de manipulation. Et c'est vrai qu'un des gros avantages, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la symétrie. On peut frapper fort plusieurs cibles à la fois, d'une façon simultanée, et déstabiliser les pays d'une façon incroyable.
Oui, mais pour l'instant, c'est totalement dissymétrique, précisément, puisque ce sont les Américains qui ont la main sur le robinet du GPS mondial.
Ben oui, mais c'est pour ça que c'était une guerre jusqu'à présent, hein, de ces techniques de géolocalisation. Et c'est pas pour rien que l'Europe a essayé de mettre sur pied aussi son système Galileo, qui a pris beaucoup de retard pour des questions de géopolitique.
Mm-hmm. Mais ça, comment expliquer ça ? Vous dites géopolitique, mais on aurait tout intérêt, dans cette bonne vieille Europe, à avoir un système fiable, et pourtant ça ne se fait pas.
C'est en train de se faire, mais ça, c'est des enjeux politiques qui peut-être me dépassent aussi, mais qui sont réels. Ça, c'est des problèmes liés avec notamment pour le retard de Galiléo, pour éventuellement l'impacter aux Anglais, par exemple.
Pourquoi les Anglais tireraient le frein à main?
Non, c'est une question géopolitique. Histoire, mais je laisse les spécialistes la question en parler.
On est certainement moins spécialistes que vous sur cette question. Allez, risquez une petite explication, c'est intéressant. Pourquoi la Grande-Bretagne freinerait?
Ou a freiné en tous les cas, ou a fait prendre du retard au système européen, mais peut-être qu'on peut penser qu'il y a certains intérêts liés entre les Américains et les Anglais.
D'accord, voilà, oui, c'est vrai que...
Pour faire simple, et raccourci.
On en a vu quelques-uns.
Voilà, ça ne serait pas la première fois, disons-nous.
Un drone piraté, c'est possible qu'on puisse pirater un drone.
Ça s'est déjà fait, d'ailleurs.
Oui. Qui peut pirater un drone américain, par exemple, qui irait faire une frappe ciblée au Pakistan, en Afghanistan? Est-ce qu'Al-Qaïda, par exemple, aurait les moyens de pirater ce drone-là et de le retourner contre une cible américaine? Pourquoi
alors,
pas?
Alors, toute l'informatique qui est embarquée quelque part peut être attaquable à distance, manipulée à distance. Il faut effectivement de certaines compétences, souvent une collaboration interne. Tout processus informatique embarqué, tout processeur, tout traitement informatique peut être détourné. Mmh. C'est qu'une question de temps et de moyens et de volonté de le faire.
Mmh. Pas très rassurant ce que vous nous dites là.
Non, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est vrai qu'il y a des vrais problèmes de nous, sociétés, de dépendance à l'informatique et aux télécoms. Et je crois qu'on s'est laissé un petit peu embarquer dans une histoire que nous ne maîtrisons pas. Il est temps de réagir.
Vous êtes partie de France, vous êtes en Suisse depuis plus de 20 ans, Solange Garnaouti. La Suisse vous paraît à quel niveau dans la lutte contre la cybercriminalité ?
En tous les cas, attentive à ces problèmes-là. Il est vrai que la Confédération a mis sur pied pour 2013 un exercice de conduite stratégique sur le risque cybernétique. C'est à tout son honneur. Il y a une prise de conscience qui est faite. La Suisse n'est pas pire ni meilleure que les autres. Et je crois que tous les pays sont très emprunts ou très désarmés vis-à-vis de cette nouvelle menace qui prend de plus en plus d'ampleur. Comme vous l'avez dit, c'est des moyens informatiques qui peuvent être donnés à tout un chacun. Et on l'a vu avec des groupes comme Anonymous. On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont là, ils sont présents et ils menacent. Et ça change la donne.
Vous organisez tout prochainement un séminaire d'ailleurs avec les polices suisses et françaises hein, sur ce dont on a parlé, la fameuse géolocalisation. C'est un outil utile à la base, à la fois pour les policiers et aussi pour les criminels évidemment.
Hein. Voilà, toute informatique est une arme à deux tranchants finalement. Là, l'idée que nous avons eue avec les forces de police et de gendarmerie de France et de Franche-Comté, notamment grâce au colonel Sevilla de Franche-Comté et le colonel Bergonzoli de l'Académie de police à Saint-Maurice, c'est de former ensemble policiers policiers et gendarmes dans la même salle, français et suisses dans la même salle, pour ces problématiques, pour accompagner le changement de la société. C'est-à-dire, le monde change, la société change, les criminels opèrent différemment. Il faut que nos forces de police et de justice soient à même aussi de réagir ou d'avoir les mêmes outils en tous les cas.
Il faut une meilleure collaboration transfrontalière dans le domaine ?
Oui, on l'a vu avec Europol, cette nécessité de collaborer ensemble pour lutter sur un phénomène global qui nous dépasse, nous individus, nous nations, nous organisations. Seul, on va pas y arriver et c'est plus que jamais mettre les forces ensemble pour traiter cette problématique qui est par essence transfrontalière. Donc là, c'est une première en termes de collaboration bilatérale et c'est aussi une première en termes de collaboration du monde scientifique avec le monde judiciaire. Et c'est vrai que le financement de cette formation vient d'un projet européen MODAP qui est porté par le PFL, par professeur Stakia Petra et Christine Parent de l'UNIL, auquel je collabore. On a pu dégager des fonds pour financer cette formation, pour disséminer les avancées de la recherche d'un programme qui s'occupait de géolocalisation et de protection des données et de faire partager cette connaissance avec les forces de justice et de police.
Bah justement, à propos de financement des fonds, il y avait cette enquête de la NZZ Amtsontag sur l'économie dans les hautes écoles, Solange Gernaouti. Les fonds privés représenteraient 37% du budget de l'Université de Saint-Gall, 7,6% seulement de l'EPFL. On sait que de nombreuses chaires universitaires sont sponsorisées. La frontière entre hautes écoles et entreprises n'est plus aussi claire qu'avant, mais c'est peut-être un bien, une opportunité pour vous, oui.
Tout à fait. Il faut pouvoir faire des partenariats publics, publés, mais bien cadrés et pour pouvoir avancer sur ces problématiques, y compris en cybercriminalité.
Vous avez des fonds qui viennent de sociétés informatiques, vous, qui financent vos recherches ?
Certains projets, oui.
Oui, clairement.
Clairement, mais avec des objectifs bien cadrés et délimités. Et je ne travaille pas pour ces sociétés, mais je travaille en collaboration avec ces sociétés pour le bien de la communauté.
Donc pour vous, la limite est claire ?
Ah ben oui, elle est contractuelle.
D'accord. Vous êtes française d'origine. On va avoir dans la presse alémanique un sujet dont on parle beaucoup ces derniers jours, Maurice Doukas. La France qui durcit le ton contre ses exilés fiscaux qui sont en Suisse.
La Berner Zeitung titre « Les Français de l'étranger sont sommés d'assainir les finances de la République ». Le journal bernois souligne que l'État français est surendetté et est actuellement à la recherche de nouvelles sources de revenus. Et c'est ainsi que les super-riches vont être sollicités. Mais la grande question est de savoir comment les millionnaires français résidant en Suisse vont réagir. Peu, selon le journal bernois, vont suivre l'exemple de l'acteur Gérard Depardieu et demander la nationalité russe. De son côté, le Bund concède aujourd'hui que jusqu'ici, l'État français a fait preuve de tolérance depuis 1972 sur cette question. Quant à la Neue Zürcher Zeitung, elle nous explique ce matin que l'annonce abrupte de la fin des forfaits fiscaux est un nouveau signe extrêmement fort de la tension qui existe entre les deux pays sur cette question. La NZZ parle même d'une décision qui est proche de l'affront diplomatique. Un affront qui aurait été fait à la conseillère fédérale Evelyne Wilmer-Schlumpf, qui a rencontré il y a quelques semaines à Paris François Hollande, le président français. On avait alors loué la bonne entente entre les deux chefs d'État. Et on voit aujourd'hui, explique la NZZ, que la France assimile la Suisse à un simple oasis fiscal.
Solange Gernaouti, vous avez un pied dans les deux pays, enfin surtout en Suisse maintenant. Mais bon, la France, vous le connaissez bien, vous en venez. Oasis fiscal, la Suisse, est-ce que la France a raison de taper du poing sur la table ? À dénoncer ce qu'elle a conclu avec la Suisse.
Alors effectivement, la Suisse est toujours une cible privilégiée. Je crois que les Français sont un peu jaloux de la qualité de vie que nous menons ici en Suisse. Et je crois qu'ils cherchent l'argent là où ils peuvent le trouver. Mais est-ce qu'ils ont raison? J'en sais rien. Le problème est complexe. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est tous ces Français qui viennent effectivement pour des raisons fiscales en Suisse et qui finalement vivent en France.
Il y en a beaucoup, hein.
Oui. Mais ouais. Comme ceux qui vont en Belgique, ils vont pas trop loin justement pour être proches de Paris notamment.
C'était pas votre cas.
Non, pas du tout. Moi, je suis
venue. Vous n'êtes pas une exilée, vous.
Non, et puis je suis pas très riche non plus. Hein.
Mais est-ce qu'il y aurait un lien entre l'exil ou la fraude fiscale et la cybercriminalité ? Autrement dit, l'un pourrait-il passer par l'autre ?
C'est une bonne question. En tous les cas, les flux financiers sur le net sont intéressants à suivre pour justement les cybercriminels, mais aussi pour la lutte contre cette cybercriminalité. Alors le lien entre la fraude fiscale et la cybercriminalité, je ne sais pas si on peut le faire d'une façon aussi raccourcie.
Vous allez peut-être travailler là-dessus un jour, non ?
Peut-être, oui, c'est une bonne idée en tous les cas.
Je vous remercie d'avoir été notre invité, Solange Gernaouti.
Vous
êtes professeur à HEC à l'Université de Lausanne, vous êtes spécialiste de cybercriminalité. On renvoie surtout à un de vos ouvrages, La cybercriminalité, le visible et l'invisible, c'était paru en 2009 dans la collection Le Savoir Suisse. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.